Les passions de Camille avec Camille Chai.
Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Chai. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme, comme d'habitude. C'est toujours le cas pour moi parce que à chaque émission, pour moi, de recevoir mes invités, eh bien, ça me donne la forme et la motivation de rencontrer ces fameux invités. Et aujourd'hui, nos invités vont nous raconter leur histoire, vont aussi nous partager des anecdotes qui sont très humaines et qui vont nous lancer sur de belles pistes de réflexion. Et les deux invités aujourd'hui me font aussi penser à l'expression « être sur son X ». Vous savez, cette fameuse expression qui dit qu'on a le sentiment d'être à la bonne place, d'être en pleine maîtrise de nos moyens, et ça, que ce soit à travers un métier ou une passion, eh bien, de pratiquer une activité qui nous donne de l'énergie et qui met en valeur nos talents et nos forces, eh bien, c'est ce que m'inspirent les deux invités d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir Rose-Marie Leclerc et Éric Tremblay. Vous écoutez Les Passions de Camille. Alors, notre première invitée à 33 ans, c'est une femme accomplie. Alors ça, oui, je peux vous le dire. Elle est réviseure à la division de la publication pour les amputés de guerre. Bienvenue, Rose-Marie Leclerc.
Merci, Camille.
Ça me fait plaisir de t'entendre.
Oui.
Alors, Rose-Marie, on se fait plaisir aujourd'hui. On rentre dans le vif du sujet. Oui. Donc, tu es d'abord réviseur à la division de la publication pour les amputés de guerre. Ceux qui ont maintenant l'habitude de nous écouter savent ce que c'est que les amputés de guerre. C'est une très, très grande famille. Toi, tu y travailles depuis combien de temps?
C'est récent. Ça fait un an et quelques mois. Ça a été un retour aux sources pour moi, si je peux dire, parce que, ben, tu le sais, Camille, c'est là qu'on s'est rencontrés. j'ai fait partie de l'association dès mon tout jeune âge. Mm-hmm. Et puis, c'est ça. Donc, après mes études, je suis allée travailler dans d'autres milieux. Mais j'ai eu envie, il y a un an, de revenir vers l'association et de donner un peu ce que j'avais reçu, finalement.
Mm-hmm, parce que, entre autres, tu as un bac en traduction.
Oui, tout à fait.
Donc là, en tant que réviseur à la division de la publication, tu gères, c'est le cas de le dire, toutes les publications que l'association doit faire sur les réseaux sociaux?
Pas tout à fait. Ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est vraiment plus mes collègues des communications. Nous, c'est plus les communications aussi, mais c'est un peu différent. En fait, c'est ce qui s'adresse à toute la correspondance, la documentation qui s'adresse à nos donateurs, mais aussi à nos adhérents. Alors, on a beaucoup, beaucoup de ressources informatives de toutes sortes qu'on met à la disposition de nos adhérents. Eh bien, c'est sûr que ça passe par mes collègues et moi.
Et puis, évidemment, on parle de traduction parce que le siège social est à Ottawa.
Exactement. Donc, c'est une association pan-canadienne. Mm-hmm. Alors, évidemment, le contenu est généralement créé à Ottawa. Et nous, eh bien, on traduit, on adapte pour nos adhérents francophones.
Et tu me disais que le télétravail, parce qu'on en entend tellement parler en ce moment, mm-hmm. plus que jamais dans le contexte de la pandémie. Mais tu me dis que le télétravail, pour toi, c'est pas une punition.
Ah non, pas du tout. Moi, je suis, évidemment, dans les circonstances qu'on connaît, je suis en télétravail depuis le mois de mars, depuis mm-hmm. le tout début de la pandémie. Mm-hmm. Et je dois dire, c'est vraiment différent pour chaque personne, mais moi, honnêtement, j'adore ça. ce mode de vie-là me convient très bien et je dirais aussi que c'est une... le télétravail, pour moi, c'est une grande, je m'en rends compte, c'est une grande économie d'énergie. Hey. Parce que quand même, se déplacer vers le travail à tous les jours, on le fait et on s'en rend pas trop compte. c'est quand on n'a plus à le faire qu'on se rend compte que quand même, il y avait une certaine dépense d'énergie et que ben c'est une énergie que je peux mettre ailleurs. Alors, je peux dire que c'est vraiment dans les circonstances folles qu'on connaît en ce moment. Mais c'est un avantage que j'ai trouvé à ce moment-là. Ouais.
Puis tu parles de l'économie d'énergie parce que, ben, parlons-en, tu es là aussi pour nous parler de ta malformation. Puis j'en profite parce qu'on dit que c'est une malformation congénitale entre nous parce qu'on est habitué d'entendre ces termes-là. Mais effectivement, c'est pas tout le monde qui sait ce que ça veut dire. En fait, une malformation congénitale, ça veut simplement dire que c'est une malformation de naissance.
Exactement, c'est ça. Alors, moi, je suis née avec des malformations aux deux jambes. Donc, il me manque les deux fémurs et les genoux, pour être un peu technique. Mm-hmm. Ce qui fait que, bien évidemment, mes jambes sont beaucoup plus petites. Donc, je mesure environ 4 pieds. Au Québec, on parle en système impérial quand il est question de taille et de poids. Alors, si je dis 4 pieds, les gens vont comprendre.
Oui.
Et je suis aussi, il me manque ma main droite. Mon bras droit arrête environ au coude.
D'accord.
Et comme tu disais, ben, c'est de naissance.
Et est-ce que tu connais la raison de la malformation?
Non, pas vraiment. À ce qu'on m'a dit, ce n'était pas génétique. C'est vraiment, on pourrait donner toutes sortes de d'expressions, mais moi j'appelle ça un accident de la nature ou un défaut de fabrication.
Oui.
Mais c'est ça, il n'y a pas vraiment de raison. C'est arrivé comme ça.
Et au niveau de ta main droite, est-ce que tu portes une prothèse de bras?
J'en ai porté plus jeune, mais en fait, c'est que comme je suis aussi non seulement amputée au niveau du bras droit, mais aussi de petite taille, bien, c'est sûr que quand par exemple, je m'assois sur une chaise ou quoi que ce soit, je dois vraiment utiliser mes deux bras pour me hisser, si je peux dire. Je me suis rendu compte que, inconsciemment, là, mais que c'était plus facile quand même avec mon bras sans prothèse.
Ah, okay.
Donc, je n'en porte pas au quotidien. J'ai vraiment appris à tout faire, mes tâches, mes actions sans prothèse. Mais j'avais quand même essayé. Dans l'ensemble, j'ai eu quelques prothèses. J'ai beaucoup plus jeune, là, j'ai voulu essayer de jouer de la guitare. Mmh. Et puis, on m'a fait faire une prothèse spécialement pour ça. Mais malheureusement pour moi, parce que je suis une grande mélomane, mais je n'avais pas un grand talent et je n'avais pas beaucoup de discipline pour pratiquer et tailler ce manque de talent-là. Alors bref, aujourd'hui, je me contente d'écouter de la musique. Je n'en fais pas beaucoup.
Toi-même.
Mais bref, non, c'est ça. Mais effectivement, donc j'ai essayé quelques prothèses, mais...
Ça a été sans succès au final.
Oui, c'est ça. Ça ne me convenait pas.
Et par rapport à ton enfance et ton adolescence, comment ça s'est passé pour toi? On parle souvent d'intimidation, du regard des autres. Est-ce que tu as des... Comment c'était, toi, ton expérience?
Moi, mon expérience en relation avec les autres, je dirais qu'elle a été globalement positive. L'intimidation, la méchanceté, c'est pas quelque chose qui a fait partie de mon parcours. Moi, je viens de la campagne, je viens d'un village qui s'appelle Sainte-Croix-de-Lobinière, près de Québec. Et à l'école primaire, c'est un peu flou à mon esprit. Je ne sais pas si c'est parce que tout le monde me connaissait déjà un peu, mais je n'ai pas de souvenir vraiment, par exemple, qu'il y ait eu un choc à ma première journée d'école ou qu'il y ait eu vraiment des réactions très fortes des enfants. Moi, l'école primaire, ça a été... ce sont de très beaux souvenirs. J'avais des amis. J'étais une petite fille qui était assez fonceuse, qui même même meneuse un peu. Là. J'avais pas peur. J'étais un peu la leader du groupe.
Parfois. Wow.
Encore aujourd'hui, je suis encore comme ça aujourd'hui, j'aime rire et faire rire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi.
Est-ce que ça le vient de tes parents ou c'est toi-même qui as développé ça?
Ah, je pense que ça me vient des parents, je dirais. L'humour me vient de mon père, je dirais. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui je dirais, m'a forgé le caractère dans le sens que mon père m'a toujours taquiné. Puis c'est gentiment avec beaucoup d'amour, mais ça a comme forgé mon caractère. Et à mon tour aujourd'hui, je suis quelqu'un de très taquine. Là. Je taquine beaucoup les gens que j'aime.
Eh oui, c'est un bel atout.
Oui, tout à fait. Puis ensuite, au secondaire, je suis allée dans une autre ville parce que c'était une école privée plus petite avec moins d'étudiants. Puis c'était comme un peu plus adapté à ma réalité, disons que la grande polyvalente qui était vraiment littéralement dans mon village. Mm-hmm. Donc à ce moment-là, je dirais qu'au début, j'ai trouvé ça juste parce que je ne connaissais personne. Ça a été un petit peu un choc. Puis tu sais, quand tu as les mêmes amis depuis la maternelle et que tu arrives à 12 ans, tu dis bon, OK, comment je me fais des amis? Au début, ça a été un peu déstabilisant. Mm-hmm. Mais j'ai fini par me faire des amis, j'ai fini par faire ma place.
Et quand tu dis que tu étais taquine, y en a d'autres qui se sont permis d'être taquins avec toi aussi.
Ben, c'est arrivé une seule fois. Je te disais que l'intimidation n'avait pas fait partie de mon parcours. Ben, je pense que, et je sais pas, peut-être que parce que j'ai été seulement très chanceuse, mais je pense qu'il y a peut-être un peu de mon attitude qui vient jouer là-dedans. J'ai une anecdote, une fois où il y a eu, disons, tentative d'intimidation et ça n'a pas fonctionné. Mm. On était à la cafétéria de mon école secondaire et puis je ne sais pas si c'est comme ça dans les grandes cafétérias polyvalentes, mais nous, il fallait, après le repas, débarrasser notre cabaret. Mm-hmm. Et bon, on mettait l'ustensile là, le verre là. Et il y a un garçon qui est tout de suite derrière moi dans la file pendant que je débarrasse mon plateau. C'est un garçon que je connaissais pas vraiment, qui était un an plus vieux que moi. Et pour sans doute faire rire la galerie, commence à dire fort, évidemment, pour que j'entende. Voyons, c'est bien long, ça n'a pas de bon sens, aidez-la à quelqu'un. Puis, bon, il faisait son drôle comme ça. Mm-hmm. Et moi, dans la vie, j'ai pas une grande tolérance à la stupidité. J'ai vraiment trouvé ça très stupide comme comportement. Donc, je me suis retournée, je l'ai regardé et du tac au tac, j'ai dit, ben, passe en avant de moi si t'es pas content. Mm-hmm. Alors, il a été un peu figé, mais il a tempéré, il a passé devant moi et il est sorti de la cafétéria presque à la course.
Ah, wow.
Ce qui est comique, c'est que quelques temps après, on se retrouve exactement dans la même situation. Film de la cafétéria, je suis devant lui et j'échappe mon verre vide, mais mon verre quand même. Et le garçon se penche et me le ramasse et me le donne. Et ça, je me suis dit, oh, OK, je pense que je lui ai peut-être enseigné une leçon. Je pense que je me suis fait respecter par cette personne-là. Mais c'est vraiment, c'est ça, je me rappelle très bien de cette anecdote-là, mais justement, par définition, c'est anecdotique, c'est pas quelque chose qui a été récurrent. Ça n'a pas fait partie de mon parcours, l'intimidation, heureusement.
Mais je suis heureuse de l'entendre, puis au contraire, ça devient une très belle anecdote, un beau souvenir, parce que tu nous parles de la notion de respect. Donc, il y a eu une suite ou une réflexion, certainement, chez ce garçon-là. Je trouve que c'est magnifique. Et Rosemary, pour la grande mélomane que tu es, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et on en reparle tout de suite après.
Avec plaisir.
matin qui s'appelle hier. Prends le 16e dans ma tête, il est pour toi. Je promets que la journée qui s'en vient, une flambe en neve. Je promets que la journée qui s'en vient, une flambe en neve. Je le connais bien, les chemins du plus lâche. Mes bras désolés, un peu comme des chiens. Je promets que la journée qui s'en vient, une flambe en neve. Je promets que la journée qui s'en vient, une flambe en neve. Je promets que la journée qui s'en vient, flambe en neve. Je promets que la journée qui s'en vient, flambe en neve. Je promets que la journée qui s'en vient, flambe en neve. Je promets que la journée qui s'en vient, flambe en neve. Vole-moi de ton mieux, vole-moi davantage. Gave-moi de ton amour pour chimer l'univers. Je promets que la journée qui s'en vient, flambe en neve.
C'était « La journée qui s'en vient est flambant neuve » avec Podcast Rosemary. C'est une chanson qui te ressemble beaucoup et que tu apprécies particulièrement.
Oui, d'ailleurs, je te remercie d'avoir pris ma suggestion. Oui, c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui me met toujours de bonne humeur. Puis c'est ça, j'aime bien cette idée que, c'est ça, échappe une nouvelle journée et pleine de possibilités. Oui, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire.
Eh bien, merci de nous avoir partagé cette petite chanson que tu aimes. On va prendre le message. J'adore le mot flambant neuf. Hein. C'est, oui. On repart à zéro. C'est une nouvelle page. Puis il y a quelque chose qui a attiré mon attention tout à l'heure parce que tu parlais de ton travail et de l'économie d'énergie. Oui. C'est vrai que, bon, quand on parle de handicap, peu importe notre limitation physique, on a souvent une fatigue qui vient. Toi, bon, c'est en partie pour tes déplacements, en fait, que tu génères une grande fatigue.
Oui, tout à fait. Je dirais que dans ma vie, je dis souvent que ma vie, elle est à 99% normale. Mm-hmm. Le 1% qui est différent d'une personne qui n'est pas handicapée, c'est ça, c'est ce qui concerne pour moi les déplacements, la marche. Alors, c'est sûr que je dois toujours avoir ça en tête et je dois m'arranger pour gérer mes déplacements, mm-hmm. gérer ma dépense d'énergie. Donc, si par exemple, j'ai fait ma journée de travail, disons hors pandémie, là, je fais ma journée de travail au bureau, je suis allée au bureau, je reviens à la maison, et que j'ai une rencontre avec des amis le soir, ben il y a des grosses chances que je prenne un taxi pour y aller.
Oui.
J'assume cette dépense-là, j'organise mon budget en conséquence, parce que je sais que je vais passer une plus belle soirée, je vais plus profiter de ma soirée si j'économise cette énergie-là. Ça m'est venu de j'étais à l'université, puis c'est ça, c'était mon médecin que j'avais consulté à cette époque-là et qui m'avait dit, et ça m'est toujours resté, qui m'avait dit: Rosemary, tu vas devoir apprendre à mettre ton énergie sur tes priorités. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique et je l'applique le plus possible.
Et puis, ben c'est une très belle chose parce que c'est une forme de conscientisation de en fait ta situation, ta réalité. Mais quand tu dis que tu assumes les frais, évidemment, ça fait partie de dépenses en tant que personne handicapée que tu as à défrayer, à débourser pour toi-même. Est-ce qu'il y a une subvention quelconque ou un moyen pour toi de rattraper ces frais-là?
Ben c'est sûr que je suis inscrite au crédit d'impôt pour personnes handicapées du gouvernement fédéral et donc c'est sûr qu'il y a une partie qui me revient chaque année quand je fais mes impôts, donc je considère que ces petites dépenses là qui sont supplémentaires sont couvertes par ce crédit d'impôt-là aussi. Mm-hmm. Par exemple, quand pour faire mon épicerie, ben je la fais livrer. Il y a des, ça c'est fantastique, mais il y a des frais pour ça.
Oui.
Donc je considère que ces dépenses-là sont englobées dans ce que je reçois du crédit d'impôt.
OK, quand même. Et là, je t'amène ailleurs, on change de sujet, un sujet plus croustillant.
Oui.
Parce que j'avais parlé avec toi un peu avant pour voir, j'aime bien demander aux gens quand ils veulent parler de leur relation amoureuse, il y a plein de choses à raconter. Toi oui. Rosemary, tu as été en relation pendant 8 ans.
Oui, mais presque
8 ans. Mais aujourd'hui, tu es célibataire.
Oui, tout à fait. Cette relation-là a pris fin il y a 4 ans. C'est ça, ça a été tout un processus pour moi d'apprivoiser ce célibat-là, parce que la relation avait commencé, moi j'avais 21 ans. Alors, être célibataire à 21 ans, être célibataire à 30 ans, c'est vraiment différent. Et la dernière fois que j'avais été célibataire, les applications de rencontres et tout n'existaient pas. Alors, ça a été complètement un nouveau monde à découvrir pour moi. Mais je dirais que pendant les 2 premières années et demie de mon célibat, après cette relation-là, je voulais rien savoir des applications de rencontres parce que je me disais, par définition, c'est subjectif. C'est un peu superficiel. On décide oui ou non en quelques secondes sur la photo de quelqu'un.
Oui.
Et je me disais, mais ça peut pas fonctionner. Je me disais, pour que quelqu'un soit intéressé à moi, il faut qu'il m'ait vu fonctionner. Il faut qu'il comprenne que ma réalité est pas tellement différente que celle d'une autre, etc. Donc, c'est un peu les idées préconçues que j'avais dans ma tête. Mais bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas? Je vais l'essayer, puis on verra bien. C'était il y a environ 1 an et demi. Et je dirais que globalement, c'est une expérience qui est assez positive. Ça se passe mieux que ce à quoi je m'attendais. Évidemment, je suis encore célibataire, donc ça se passe pas si bien que ça. Mais franchement, sans rire, j'ai découvert que les gens, et que certaines personnes étaient beaucoup plus ouvertes que ce à quoi je m'attendais. Il faut, c'est sûr, et ça, je pense que c'est aussi le cas des personnes qui ne sont pas handicapées, mais peut-être à plus forte raison quand on l'est. C'est sûr qu'il faut se forger une espèce de carapace. Il faut, c'est sûr qu'on va vivre du rejet. Ça, il faut l'accepter, entre guillemets. Il ne faut pas le prendre personnel. Mais quand les personnes qui passent par-dessus, généralement passent par-dessus pour vrai. Moi, au début, j'étais un peu. Je posais la question, je disais, ouais, mais OK, t'as vu sur mes photos que j'étais handicapée et tout ça. Et 9 fois sur 10, la réponse que j'ai, c'est ben oui, j'ai vu, mais je te trouve quand même belle. Je trouve que t'as l'air intéressante et tout ça.
Ça se prend
donc,
bien.
Ça se prend bien et les rencontres que j'ai faites ou les relations que j'ai développées, si ça n'a pas fonctionné ou si ça n'a pas duré, je dirais que c'est pas à cause du handicap. C'est arrivé 2 fois, je dirais, que je suis allée prendre un verre avec quelqu'un et que j'ai senti que on avait beau avoir eu la discussion virtuellement. Il me disait non, ça ne me dérange pas. Et que en personne, que ça a dérangé un petit peu, que j'ai senti un malaise. C'est arrivé deux fois. Mais ça aurait pu ne pas fonctionner pour autre chose. Je veux dire, ça arrive à tout le monde de faire une rencontre en personne et que ça ne clique pas.
C'est comme partout un peu. Après, c'est une rencontre humaine, donc c'est à nous de la mener comme on le veut. Rosemary, tu ne me croiras pas, mais il reste à peine une minute déjà à l'entrevue. Non, au contraire. Est-ce qu'en quelques secondes, tu as un dernier mot à me dire par rapport à un conseil que tu voudrais donner aux gens pour être bien dans leur peau en 30 secondes?
Moi, je dirais que c'est de cultiver ses forces. C'est de cultiver ce dans quoi on est bon, les traits intéressants de notre personnalité. On a tous quelque chose de beau à offrir et puis je pense que c'est ce qu'il faut cultiver le plus possible.
C'est magnifique. On va rester sur ces belles paroles. Merci infiniment, Rosemary. Il faudra peut-être que tu reviennes à l'émission parce que tu avais tellement d'autres choses à raconter. Merci infiniment.
Merci,
et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Éric Tremblay. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, Camille Chaille, je suis encore avec vous pour la prochaine demi-heure et je ne suis pas seule. Non, je suis en compagnie d'Éric Tremblay qui a 44 ans. Il habite à Cowansville. Il a 4 magnifiques enfants et c'est un entrepreneur. Enchanté, Éric Tremblay.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Éric, tu viens nous raconter ton histoire. Tu es un entrepreneur, tu as des projets par milliers plein la tête et tu es devenu paraplégique à la suite d'un accident de travail. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, effectivement, j'ai opéré pendant plusieurs années une entreprise d'entretien paysager. Et puis, alors que je travaillais chez un client, j'avais pour mandat d'abattre un arbre qui était déjà cassé puis qui était coincé dans d'autres arbres. Et puis malheureusement ça a mal tourné puis je suis resté coincé en dessous de l'arbre au moment de sa chute et puis ça a créé une blessure à ma moelle épinière. Dans le fond, ma colonne vertébrale a été fracassée et puis à ce moment-là j'ai eu une blessure à la moelle épinière qui m'a rendu effectivement paraplégique là depuis un peu plus de 9 ans. Là.
Oui, parce que c'est arrivé le 29 avril 2011.
Oui, exactement.
Comment ça s'est passé, je veux dire, la journée même de l'accident? Est-ce que tu étais conscient de ce qui se passait?
Oui, relativement. Je dirais c'était... moi, évidemment, c'était au printemps, fait que c'était le début de ma saison de paysagement. Là, j'étais comme en pleine action, si on veut. C'était un beau vendredi après-midi ensoleillé. C'est ça, je suis parti le matin travailler et puis ben je suis comme suite à l'accident, je suis revenu comme 4 mois plus tard assis dans un fauteuil roulant chez moi. Effectivement, j'ai passé environ trois mois de réadaptation à Montréal et puis quelques semaines d'hospitalisation à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal suite à la blessure et la chirurgie qui est survenue suite à la blessure. Et puis évidemment, c'est comme un peu, au début, on y croit pas trop, là. C'est comme tellement gros que c'est comme un mauvais rêve auquel on veut pas croire non plus.
J'imagine.
Mais c'est sûr que si dans le lit d'hôpital, jour après jour, on se rend compte vraiment que c'est la réalité et que les conséquences sont assez graves. Là, moi, on m'avait quand même avisé dès le départ que j'avais vraiment une vilaine blessure et que mes chances de remarcher un jour étaient quasi nulles, là, parce qu'on peut pas vraiment dire que c'est 100% nul, mais vraiment pas beaucoup de chance. Quand j'étais en réadaptation, honnêtement, ça se passait relativement bien, même si ça n'avait pas vraiment bien allé. J'étais dans un environnement où j'avais beaucoup d'aide. J'avais des gens autour de moi qui étaient en fauteuil aussi. On dirait qu'on pourrait dire que je fitais dans le décor, si on veut. Mais quand je revenais à la maison, mais quand je revenais à la maison après la réadaptation, que je suis arrivé dans un milieu non adapté, ma maison n'était pas adaptée, j'avais une maison à deux étages, bon, là, je pouvais plus conduire, j'avais plus de véhicule. Là, ça m'a comme frappé de plein fort, m'a dit, ma vie vient de vraiment changer, là, ce qui a pris un certain temps, là, à réaliser quand même quelques mois. Réaliser cet impact-là. Là.
Oui, parce que c'était, comme tu le dis, une deuxième vie.
Oui, c'était une deuxième vie, puis c'est quelque chose. Moi, dans mon environnement, je connaissais personne en situation d'handicap vraiment ou en fauteuil roulant. Fait que je pouvais pas tant imaginer. De toute façon, c'est quelque chose qu'on peut pas réellement imaginer tant qu'on l'a pas vécu, mais j'avais pas vraiment de perception de tout ça. Puis évidemment, comme la majorité des gens, je pensais que c'est le genre de choses qui m'arriveraient jamais.
Oui.
Fait que c'est sûr que j'ai été assez bousculé, mais j'ai essayé de garder le positif de tout ça, là, même si les moments rough ont été très présents. Là, j'ai quand même 4 enfants comme vous l'avez spécifié. Fait que je me suis poussé dans les fesses un peu pour eux, là, honnêtement, plus que pour moi par moment. Là, je le dis en tant que père de famille, je voulais toujours donner l'exemple et essayer d'être fort, même si j'ai passé des soirées à pleurer dans ma chambre en cachette un peu. Mais c'est ça, c'est un peu ça le parcours là, après l'accident. Là.
C'est quand même un moment touchant, puis le fait, on dit souvent, vivre les émotions, pour un homme, là, il y a la notion de l'accident, c'est pas rien, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Comment vous l'avez expliqué aux enfants, en fait, que ben, papa était un peu différent, quoi?
Ben, à ce moment-là, j'avais... Mes enfants, ma fille la plus jeune avait 1 an, fait que elle devait réaliser, mais je pense qu'elle était un peu moins consciente des impacts de tout ça. Mes deux plus vieux, ma fille la plus vieille avait 9, mon garçon 8, et puis ma troisième fille avait 3 ans.
Okay.
Fait qu'eux étaient un peu plus conscients. J'ai tout le temps essayé de rester positif malgré tout. Principalement devant eux, là, même si c'était pas tout le temps le cas. Là, je veux dire. Mais j'ai essayé rapidement là, de sortir, de me dire bon ben comment je vais faire pour me sortir de ça, puis comment je vais apprendre à vivre avec ça, puis être heureux avec ça. Parce que j'ai passé des stades où honnêtement, je voyais pas en avant, puis je voyais pas comment je pourrais arriver à être épanoui dans la vie avec tout ça, parce que j'étais vraiment dépassé. Puis assez rapidement, je me suis fait des amis en fauteuil roulant qui étaient comme moi, paraplégiques ou quadriplégiques, mais du moins qui étaient des blessés médulaires. Et puis j'ai vu des gens qui étaient en fauteuil depuis très longtemps, depuis 5, 10, 15, 20, 25 ans. Puis malgré tout, c'est des gens qui avaient quand même une qualité de vie. Il y en a qui étaient sur le marché du travail, certains avaient des familles, puis il y avait un semblant de vie heureux là, malgré la situation. Fait que ça m'a vraiment
c'était motivant.
Beaucoup aidé. Oui, vraiment beaucoup. Là, c'était pour moi une source d'inspiration. C'est ce qui m'a poussé un peu dans les fesses à continuer. J'étais tout le temps, j'étais entrepreneur souvent dans ma vie. J'ai eu des postes où j'étais dans la partie patronale, si on veut, des entreprises où j'ai travaillé. Fait que j'ai dit, bon, ben qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'ai le choix d'arrêter ça puis de laisser l'handicap me vaincre ou de continuer à essayer d'avancer. Fait que de là, j'ai dit, OK, ben bonne occasion pour une réorientation de carrière. Étant donné que je travaillais à mon compte, j'étais habitué de gérer mes trucs puis tout. Fait que j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'aime, moi, dans la vie? J'aime la construction. J'aimais beaucoup la construction. J'étais un gars très manuel. Fait que je suis retourné aux études dans le domaine de la construction pour être estimateur. Là, évidemment, je devais avoir un poste adapté à ma réalité. Là, je n'irais pas cogner des clous nécessairement. Et puis, suite à ça, bon, j'ai essayé de trouver du travail. Ça a été un peu complexe parce que je ne l'ai pas nécessairement travaillé à temps plein. Je l'ai travaillé de la maison. Étant donné ma situation, c'était beaucoup plus pratique. Fait que j'ai pas vraiment trouvé d'employeur avec qui ça l'a vraiment cliqué. Et puis, de là, j'ai décidé de partir mon entreprise en adaptation domiciliaire. Là, puis, je suis dans ce processus-là là, qui dure depuis déjà un petit bout de temps, là, mais je suis vraiment je vais devenir entrepreneur qui va se spécialiser vraiment dans les adaptations au niveau résidentiel ou commercial
parce que j'ai vu le besoin aussi. Moi, je l'ai vécu, le besoin. Quand je suis arrivé chez moi puis que je n'étais pas capable de monter dans ma chambre qui était au deuxième, j'ai réalisé que tabarouette, il y avait un besoin. Puis les hébergements adaptés et accessibles, surtout, là, parce que quand on parle d'accessibilité et d'adaptation, c'est quand même deux choses différentes. Là. Oui. C'est pas parce qu'il est accessible qu'il est adapté nécessairement à l'intérieur. Mm-hmm. C'était très, très rare. Puis moi, j'aimais vraiment beaucoup la construction puis les chiffres. Fait que c'est de là, là que j'ai décidé de démarrer l'entreprise. Pour moi, c'est comme une grande victoire. C'est-à-dire que j'ai passé par-dessus ça. Et puis que malgré tout, j'arrive à sortir du positif de ça.
C'est beau parce que puis le nom de ton entreprise, c'est Inclusion Concept.
Oui.
Puis tu me parles de ta maison. D'ailleurs, c'est toi-même qui as fabriqué ta propre première maison, c'est bien ça?
Oui, oui, j'avais participé à une grande partie de la construction.
Ouais. Mmh. Et là, donc, pour l'adaptation de ta maison au moment de... suite à l'accident, est-ce que c'est long, les démarches? Il faut attendre des subventions parce que là...
Oui, effectivement, c'est... Dans mon cas, honnêtement, ça a été, je dirais, relativement rapide. Ça pourrait... du début du processus à la demande de la subvention jusqu'à l'exécution de la fin des travaux, moi, ça a pris environ un an chez moi, ce qui est relativement rapide, là, parce que dans certains cas, c'est complexe. Là, je dis, c'est un dossier, évidemment, il y a un ergothérapeute dans le dossier qui doit évaluer la situation, évaluer le besoin. Puis, bon, il y a beaucoup de gens d'impliqués, fait que c'est une longue démarche, mais... tout dépendant, c'est un peu du cas par cas, là, tout dépendant des gens. Moi, il y a des gens comme, par exemple, sont accidentés la route, ben, ils ont un agent payeur, c'est la SAC.
Oui.
Moi, c'est un accident de travail, mais étant donné que j'étais travailleur autonome, que je cotisais pas au régime de la CNSST à ce moment, de la CSST à ce moment-là, j'avais pas d'agent payeur vraiment. Là, c'était le programme public qui est le programme d'adaptation de domicile qu'on appelle, là, qui est géré par la Société d'habitation du Québec, conjointement avec la MRC où l'on habite. C'est un programme qui est un petit peu moins généreux dans les 3-10, mais quand même l'argent est là et puis on travaille fort pour bien la dépenser et la mettre à la bonne place, l'optimiser, disons.
Et tu me disais que là, la maison, c'est une chose, mais la voiture aussi, est-ce que tu conduis aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, je suis conduit depuis déjà très longtemps. Là, ça l'a pris environ un an aussi, là, tout le processus du moment de l'accident à partir jusqu'au moment où que vraiment j'avais la voiture adaptée et fonctionnelle. Ça l'a pris environ un an. Fait que c'est là que je vois que c'est ça qui justifie que quand je dis que vraiment le retour à la maison était difficile. La première année est difficile parce qu'on fait le tour des 4 saisons aussi. On se cachera pas que l'hiver en fauteuil, c'est pas la joie, mais tant qu'on l'a pas vécu,
on le sait pas.
Non, c'est ça. C'est beaucoup de deuil. Hein. Fait que c'est sur une longue échéance qu'on arrive à tout faire ces deuils, puis avoir tous les impacts aussi que ça l'apporte. Là. Mais heureusement, il y a des sous qui sont là pour aider. Puis des fois, les gens vont critiquer et dire qu'il n'y en a pas assez. Mais bon, c'est vrai qu'on pourrait toujours en avoir plus, mais au moins. Je veux dire, il y a des pays où il y a beaucoup moins d'aide que ça, puis que ma situation aurait été beaucoup plus dramatique là, ailleurs, peut-être dans le monde.
Oui, ça apprend à en fait, apprécier ce qu'on a malgré tout. Puis bon, c'est une aide qu'on ne crache pas dessus dans de telles conditions. Mais je suis curieuse, ta voiture, sachant que tu es paraplégique, donc tu n'as pas l'usage de tes deux pieds, elle a dû être modifiée à quel niveau?
Moi, j'ai ce qu'on appelle une conduite manuelle. C'est tout simplement que la pédale pour les freins et pour l'accélération, pour le gaz, sont contrôlées par des manettes que je contrôle avec une main. Et puis l'autre main est sur le guidon. Là. Fait que j'ai certaines conditions. Bon, sur mon guidon, j'ai une espèce de... On peut appeler ça une boule. Là, étant donné que je conduis à une main, j'ai une condition sur mon permis qui me dit « OK, ça te prend une boule sur la main.
Ouais. »
Évidemment, ça prend une voiture automatique. Donc, un manuel, ça commence à faire trop de manettes.
Un peu trop sportif et dangereux.
Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est assez... Puis pour embarquer mon fauteuil, moi, j'étais un petit peu à la vieille méthode. Si on veut, là, je défais le fauteuil, j'enlève les roues, je plie le dossier, puis je le place à côté de moi, côté passager. Là, certaines personnes vont avoir comme des caravanes adaptées puis tout, mais moi, j'avais la grosse lacune que, étant donné que j'avais 4 enfants, la maman et moi, ça faisait 6 personnes. Fait qu'un véhicule adapté pour 6 personnes dans lesquelles je peux embarquer mon fauteuil, j'étais vraiment très limité là, parce que les équipements souvent vont pénaliser des places là, assises pour l'arrière, là, surtout dans les fourgonnettes. Fait que c'est pour ça que j'étais un peu à la méthode de j'embarque le fauteuil à la main, puis quand j'ai beaucoup de monde, ben il y a quelqu'un qui met le fauteuil dans la valise. Là.
Il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit.
Oui, c'est ça. Ça évite, évidemment, ces équipements-là, c'est très agréable, c'est très le fun, mais c'est des choses qui brisent à l'occasion. Fait que plus qu'on a des trucs sophistiqués, ben plus qu'on est un peu à risque d'avoir des bris, puis ben là, à ce moment-là, on est un peu coincé dans le transport. Là.
Oui, c'est bon. La technologie a ses avantages, ses désavantages, mais on fonctionne avec ça. Puis tu parles de l'hiver avec le fauteuil roulant. Est-ce qu'il y a. Comment tu fais aujourd'hui? Tu as quelques années d'expérience. Est-ce qu'il existe des adaptations ou des pneus carrément d'hiver?
Oui, c'est sûr qu'il y a certains pneus qui sont plus gros avec plus de crampons qui aident un peu, mais honnêtement, on ne se cachera pas que l'hiver, c'est chiant pour nous en fauteuil. Il n'y a pas de solution miracle. Oui. Il faut que ça soit bien déneigé. Puis moi, effectivement, où ce que je suis présentement, où ce que j'habite, j'ai fait mon choix de propriété dans le sens où la voiture est vraiment très près de la porte, où ce que j'ai pas roulé beaucoup dans la neige pour s'y me rendre en dedans ou pour sortir à la voiture. Là, c'est un peu stratégique, là, mais on s'habitue. Mais je dis, il n'y a pas de solution miracle pour l'hiver. Là. C'est sûr qu'on limite un peu nos sorties. On s'isole un peu parfois, mais on espère que l'hiver n'est pas trop dur à chaque année. Là.
Oui, c'est le souhait de... presque tous et chacun, je pense. On va faire une... Non, il y a mon metteur en onde qui fait que non. On va prendre le temps de faire une petite pause, le temps de discuter tout ça entre nous, puis on revient tout de suite après.
Parfait.
Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux. Yeah. J'prends le Florida Turnpike, et demain soir j't'aime mon manie. Non, trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Dans ma remorque, tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent fumer tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétro. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi aussi, quand
quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays. Yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi puis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure, qui part au fond du cœur.
C'était L'Amérique pleure des Cowboys fringants. Éric Tremblay, une chanson que tu as choisie spécialement, pourquoi?
Parce que tous mes enfants doivent la connaître par cœur.
Donc c'est une chanson que vous chantez tous ensemble.
Oui, effectivement, c'est une chanson assez populaire dans notre famille. Oui.
Et tes enfants aujourd'hui, par rapport à toi, leur papa, oui, est en fauteuil roulant, mais est-ce que ça fait partie des sujets de discussion ou non, ils l'ont complètement accepté?
Pas beaucoup, c'est sûr que je peux pas parler en leur cas. Là. Je sais pas profondément comment chacun vit ça, mais bon, chacun vit ça à sa manière. Pour certains, peut-être pour certains, c'est plus facile que pour l'autre, mais pas beaucoup. C'est sûr qu'on, évidemment, les déplacements sont limités, les activités sont limitées suite à l'accessibilité des lieux où je me dirige. Mm-hmm. C'est sûr que, bon, les gens qui habitent au deuxième étage, mes amis, ma famille, puis tout, c'est des gens que je vois pas vraiment. Fait que c'est plus moi qui va les inviter chez moi. Okay. Mais on s'adapte, là, je veux dire, ma fille la plus jeune, Sarah, c'est tout le temps la première qui va m'aider à défaire mon fauteuil pour embarquer les trucs dans l'auto. Tout le monde a suivi. Ça fait bientôt 10 ans, là. Fait que tout le monde s'est adapté, mais il y a des moments plus tristes, c'est sûr, mais c'est la réalité, la peine est là, puis il faut la vivre, il ne faut pas la cacher. Là. Mais ça va relativement bien, je dirais. J'ai tout le temps essayé d'être quelqu'un d'assez positif dans la vie. C'est sûr que j'ai eu des bouts de rough, évidemment, j'en ai encore aussi, mais je ne suis pas quelqu'un qui va déprimer pendant longtemps. Là. Je veux dire, je peux arriver qu'une journée, ça ne file pas parce que, pour peu importe la raison. Oui. Mais je veux dire, je passe à autre chose assez rapidement. J'étais comme ça avant, je suis resté comme ça. On reste quand même un peu la personne qu'on mm-hmm. était. Si on était un peu quelqu'un qui leadait, on continuait à leader. Mm. Si on était plus quelqu'un qui suivait, on continuait à suivre. Mais dans mon cas, avec la famille, ça va relativement bien, je pourrais dire. Moi.
Mais je trouve que ce qui est beau dans un peu ce que ça t'amène, c'est parce que tu parles autant des moments, des moments plus faciles que les moments plus durs, mais ça, ça fait partie de la vie pour tout le monde, qu'on parle de handicap ou pas. Donc, ça nous force ou nous apprend à vivre les moments tels qu'ils sont, autant dans le facile que le plus difficile. Et mm-hmm. voilà, ça fait partie de la vie.
Effectivement.
Et tu dis aussi
que moi, en réalité, je dirais que ce que je trouve le plus difficile dans cette situation-là, bon, c'est sûr qu'il y a les déplacements, bon, l'accessibilité des lieux où je vois, il y a des marches, bon, c'est sûr que c'est tout en plate, je peux pas monter, mais dans mon cas, moi, c'est ça qui est pas qui a le plus de conséquences, c'est plus les impacts de la paraplégie, parce qu'on pense des fois la paraplégie, on dit, oh, c'est dommage, il peut plus marcher, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que la paralysie du corps, les organes, évidemment, vous pouvez imaginer qu'il y a plein d'impacts au niveau du système d'élimination, si on pourrait dire, de la sexualité de la personne. Oui. Et puis, moi, dans mon cas, mon gros problème, ça a été souvent les plaies de pression. J'ai eu beaucoup de problèmes de plaies de pression suite à ma position assise qui est constante. Oui. J'ai eu une fesse sur laquelle j'ai eu beaucoup de plaies. Et avec beaucoup d'infections puis tout, puis ça m'a tout amené à des hospitalisations qui étaient longues, à des chirurgies. J'ai quand même un paraplégique de 9 ans, j'ai quand même un lourd passé au niveau des plaies, là. J'ai un gros bagage, là, ça va relativement bien. Mais puis moi, ma solution, quand j'ai vraiment une plaie de pression puis que j'ai des chirurgies, parce que j'ai eu beaucoup de chirurgies pour régler ça, c'est de mettre de pression sur mes fesses. Puis ça, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut être assis. Ça veut dire être couché, excusez. Mais ma vie, ça passe assis. Puis on me dit, limite ton temps assis. Mais limite ton temps assis, ça veut dire que moi, je reste couché dans un lit pendant, j'ai déjà passé 6 semaines alité complètement sans m'asseoir, sans me lever parce que j'avais une chirurgie. Puis je pouvais pas mettre de pression sur la plaie qui avait été guérie. Fait que ça, c'est vraiment... Quand je suis dans cette situation-là, je me sens vraiment comme une personne en situation de handicap. Mm-hmm. Puis ça, c'est plus difficile pour moi. Là.
J'imagine. Mais en même temps, ta façon d'y remédier, une des façons, c'est justement par la création de ton entreprise, mais tu fais aussi partie de l'Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi.
Oui, oui, ma région, oui, j'habite la Mercerie de Brome-Missisquoi. J'ai été dans l'association, j'ai été sur membre du CA pendant un petit bout de temps. J'ai même été parmi l'équipe de travail un bout de temps. Maintenant, mon entreprise et mes projets personnels me mènent à manquer de temps un peu pour tout. Fait que je suis moins impliqué un peu que je l'étais, mais je suis quelqu'un de très actif dans sa communauté. Moi, j'ai eu beaucoup d'aide de ma communauté. Là, j'ai quand même une petite communauté. Quand l'accident est arrivé, je veux pas les gens autour se sont rassemblés pour des levées de fonds, pour se mobiliser. Fait que c'est un peu ma manière de redonner à la société là, en m'impliquant comme ça là, dans l'association. Là.
Et entre autres, vous avez créé une application Accès Facile. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est quoi le but de cette application?
Ben, c'est une application qui représente, parce que l'association dont on parle présentement travaille beaucoup sur l'accessibilité des commerces sur leur territoire, là, la MRC de Brome-Missisquoi. Mm-hmm. Et puis, ils ont mis au fil du temps, là, beaucoup avant que moi je sois là, c'est un travail de longue haleine, ont mis en place un site web, là, un bottin électronique que nous on appelle, où ce que les gens mobilité réduite peuvent aller visiter, puis s'ils cherchent un restaurant, par exemple à Bromont, qui est une ville dans notre MRC, ben ils ont la liste des restaurants accessibles, puis ils ont les critères, la salle de bain est adaptée, il y a une barre d'appui, est-ce qu'il y a un gros seuil de porte, est-ce que c'est tout énuméré. Puis ça, c'était sur notre site web. Puis là, suite à ça, la directrice de l'association, qui est une femme très dégourdie, qui vit en situation de handicap aussi, a voulu mettre un peu ça à jour. On a travaillé pour mettre ça comme au goût du jour. Fait qu'on a dit, OK, on va mettre ça sur une application qu'on met sur notre téléphone, qui reprend les infos de notre fameux bottin électronique en ligne. Et puis que sur notre territoire, à ce moment-là, ben on peut savoir. Les gens peuvent faire une recherche pour savoir qu'est-ce qui est accessible plutôt que d'arriver sur place, se buter à des marches. Parce que des fois, on appelle les gens au restaurant, on dit, est-ce que c'est accessible? Ils disent, oui, ça rentre, hop, on arrive, il y a une marche. Tu sais, les gens sont pas conscients, c'est pas de mauvaise volonté, mais juste parce qu'ils sont pas conscients de qu'est-ce qui peut être un obstacle pour une personne en fauteuil. Des fois, on pense que c'est accessible, on arrive sur place, puis ça l'est pas. Puis ça, c'est sûr, c'est un peu frustrant. Là. L'application, c'est ça le but, là, c'est d'informer les gens là, de où ils peuvent aller, puis où est-ce qu'ils vont être bien là, pour se déplacer.
C'est une très belle initiative, un magnifique outil, parce qu'en fait, c'est la notion de l'accessibilité universelle qui est au cœur de ce projet-là. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les limites architecturales les plus fréquentes que vous rencontrez?
C'est sûr qu'en fauteuil, moi, c'est les escaliers, là, vraiment. Oui. Je dis, à partir du moment qu'il y a une marche, je peux monter avec de l'aide, je suis capable quand même de monter. Là, on me pousse puis je monte. À partir du moment qu'il y a plusieurs marches, c'est difficile. Les salles de bain, souvent, c'est restreint, surtout les vieux bâtiments. Là, on est tout le temps plus restreint un peu. Les salles de bain, des fois, on n'est pas capable de bien pivoter pour tourner. Oui, c'est ça, c'est trop étroit. J'ai dû rentrer d'avant puis de sortir du reculon d'une salle de bain. J'ai fait ça souvent parce que je n'ai comme pas assez de place pour tourner à l'intérieur.
Aïe, aïe, aïe.
Fait que les salles de bain puis l'accès là, physique des lieux, suite aux escaliers, c'est pas mal les deux trucs là, les plus difficiles. Donc, tout dépendant pour qui. Là, tout le monde a ses limites. Là, je veux dire, il y a les seuils de porte des fois qui sont compliqués. Moi, personnellement, j'ai pas d'atteinte aux membres supérieurs puis je suis relativement en forme. Fait que même si j'ai un bon seuil de 2-3 pouces, j'arrive à monter, mais pour d'autres personnes, c'est trop.
Ah non, c'est impensable. Puis donc, je veux dire, tu es tellement bien placé, toi qui testes toutes ces structures-là, si je peux dire ça comme ça, même par rapport à toi, à ton entreprise, Inclusion Concept, ton approche client est évidemment différente. C'est un avantage pour toi dans les services que tu offres.
Oui, c'est sûr. C'est une valeur de plus que j'ai à mon entreprise parce que je comprends la réalité des gens. Puis je connais les équipements qui peuvent être utilisés parce que moi-même, personnellement, je les ai utilisés pour mon usage. Fait que je peux savoir ce qui va bien puis ce qui va moins bien. Et puis, c'est sûr que les gens sont... C'est clair que les gens ont une certaine aisance. Là, mes clients, quand ils me voient arriver en fauteuil, ils se sentent compris, puis tout de suite, on tisse des liens assez rapides.
Ah oui, j'en doute pas. Et sachant que tu es basé à Cowansville, jusqu'où tu offres tes services en termes de distance? Parce que bon, Cowansville, c'est quoi? C'est à une heure à peu près de distance de Montréal?
Oui, une heure environ de Montréal, du Pont-Champlain. Oui, ben je travaille principalement dans ma MRC qui est Brome-Missisquoi ou la MRC de Outremont qui est plus comme Granby, ces environs-là. Mais honnêtement, j'ai jamais vraiment déterminer de territoire fixe. Si quelqu'un a besoin de moi et a besoin d'aide, puis je peux l'aider, je suis prête à aller loin. C'est ça qui est une question à mener. Il faut que ça soit rentable aussi, mais le but de cette entreprise-là, c'est pas vraiment de m'enrichir financièrement, c'est vraiment d'aider les gens. Et puis, c'est sûr, bon, moi, comme tout le monde, j'ai besoin de sous pour vivre. Là, mais pour moi, c'est vraiment comment je dis, c'est comme repousser mes limites un peu là, d'embarquer dans cette entreprise-là, parce que ça fait longtemps, ça fait quand même un petit bout de temps que ça chemine, puis par moment j'ai été découragé, par moment je me dis ok, non, j'arrête, c'est trop, surtout quand j'ai des problèmes de santé,
oui, il y a des limites,
dont les plaies finalement, mais oui. Quand même, là, malgré tout, ça avance pas par pas à la hauteur de mes capacités, mais puis les gens autour de moi aiment le projet, j'ai des bons commentaires, fait que ça m'a poussé à dire ok, il y a une place pour toi, puis continue, c'est un bel exemple et tout pour mes enfants, c'est sûr. Là,
ma mère
est entrepreneur aussi, fait qu'on voit les films entrepreneuriales qui se développent tranquillement, puis ben on aime ça. Là.
Ben écoute, Éric Tremblay, chapeau, merci infiniment de nous avoir accordé cette entrevue, puis je te souhaite beaucoup de succès dans tous tes projets, mais surtout, je sais que tu attends ta licence d'entrepreneur général, donc je te souhaite...
Oui, le COVID a compliqué un peu le développement de mon entreprise dans la dernière année, mais c'est ça, là, j'attends la licence d'entrepreneur, oui, pour poursuivre.
Bon, mais je te souhaite que ça arrive très rapidement.
Merci.
Et pour terminer, je veux juste mentionner aussi qu'Éric Tremblay a créé le groupe Facebook Personnes à mobilité réduite, donc pour ceux qui sont intéressés. Et ben, écoutez, merci à vous d'avoir été des nôtres et je vous invite à retourner sur le site Internet au besoin. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine.